Bonjour tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 20 janvier 2016. Christophe Rollin au micro, Gérald est également avec moi et nous sommes en excellente compagnie puisque Laurent Fréchuret, presque deux ans après, le mois d'avril 2014, lorsque nous avions reçu Amoré de Crayoncourt ainsi que Jessica Martin, Laurent Fréchuret, metteur en scène, à l'époque c'était pour Richard III, actuellement c'est pour En attendant Godot, donc Laurent Fréchuret est bien présent, il met en scène cette pièce au théâtre de la Croix-Rousse jusqu'au samedi 30 janvier et... il est venu avec l'acteur principal, le comédien à qui on doit cette pièce, Jean-Claude Bolreda. Tous les deux vont donc parler avec nous pendant toute cette émission de cette pièce qui a donc commencé hier soir, mardi 19 janvier jusqu'au samedi 30. C'est génial, il doit y avoir quoi, 12, 13, 14 dates. Il y aura une séance de rattrapage à Villefranche si vous l'avez manqué, puis ça continuera encore un petit peu en tournée. Et donc voilà, on va en parler pendant toute cette heure. Nous écoutons la musique comme d'habitude, Gérald a programmé quelque chose. Vous nous écoutez vous aussi, vous avez tout à fait raison sur le 102.2 de la bande FM à Lyon. C'est très très bien, Radio Canu, ou bien sur internet, radiocanu.org, jusqu'à 15h. Oh mon Dieu, quel retard nous avons aujourd'hui, 14h10. Ça n'est pas grave, ça va être très intéressant, vous allez voir.
Sage-Burn, Sage-Burn, trop mis dedans. MC Pampi, je te raconte pote, une journée de fou passée à Saint-Thé, mon bleu. Je vais te la compter, en tout cas je représente tout. Le fils de mineur, le croissier, pour ma gauche trou. Je sors dehors, je suis tout patraque, il a neigé un bon jour. Hier je suis rentré à point d'heure, j'en tenais une bonne, je me suis objet. On se calait même, mais bon quand même, il faut que j'aille courater. J'ai fait la Pampi, c'est pas le problème, mais j'ai du mal à me motiver. Faut dire que ça fait deux semaines mon blec, je me suis mis en caisse. Je veux pas faire le bossin, bordel, je peux bien bouger les fesses. Je marche dans la grande rue pour attraper mon tram. Vlad, je croise un grand bazu, mon jeune qui cherche les coups de tatane. Il me dit que c'est pas un feignant, que c'est pas le petit-fils à qui garder. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai l'objet avec un néant. Il s'aplate comme une merde, et déjà qu'il était berchu. Je lui fais sauter la dernière, à ça c'est sûr, il mâchera plus. Il s'est pris une trappe, je laisse tranquille, c'est comme un mauvais. Faut que je m'arrête à l'hôtel de ville, j'y vais à pied, j'ai pas de ticket. Là-bas, je croise le quoi sous bichette qui s'en va troyer. Il a le babo, j'ai bien compris, mais c'est pas la peine de qui est. Il me tire peine, et puis je rebout, lui tire n'importe quoi. Il se fout de mes conseils, il se dépatouille seul à chaque fois. Je tape le béco, et lui dire la royure. En lui soumettant quand même d'arrêter de bronger pour conclure. Continue ma route, trébuche, et merde de tomber. Je me suis pris un croche savate par un pitange qui était couché. Il est tout traïole comme nous, je crois qu'il peut plus se rendre. Il mène le loustique en tout cas, il est pas prêt de redescendre. Ils vont passer la nuit le gosier à des barroulés dans la rue. Demain c'est les gardous qui vont le trouver dans les détritus. Je la graille, faut que je pète un coup, ça me tirage, je me sens tout mou. Je retourne à la baraque, histoire de requinquer le canou. J'arrive que ça braille, ma moitié elle est bas contente. Elle me dit que pour ma portion, bah y en a pour trois quarts d'heure d'atteinte. Elle me fout la lourde, elle me gonfle. Je pense qu'il m'a pris le foie de me rabibocher avec elle, j'aurais mieux fait de m'arracher le bras. Et en plus j'ai pas le goût, j'ai bien grand mal à mes arpions. À force de courater, j'ai dû choper deux trois oignons. J'allume pas ces beurres, je laisse tranquille broyer. Demain sera le même, j'ai plus qu'à aller me coucher. MC Pampi, je te raconte pas, tu sais. Une journée de fou.
L'avenir ? L'avenir, le futur ?
Votre vie, comment vous la voyez plus tard dans l'avenir ?
Ouais, exact. Bon, je sais pas, l'avenir, bon, bah, j'aimerais bien déjà sortir d'ici. Aller au moins à la périphérie, quoi. Et puis, je sais pas, j'aimerais bien être avocat d'affaires ou député maire. C'est bien ça, député maire, tu fais de la thune avec ça. Député maire, ou bien j'aimerais bien vendre des stylos. J'aime bien les stylos.
Et voilà. Alors en fait, ce n'est pas une prolongation du derby, hein, Gérald, qui a eu lieu dimanche soir. Les Verts ont éhontément gagné 1-0 dans leur stade Geoffroy Guichard. Non, ce n'est pas du tout une prolongation du derby. C'est pour introduire nos invités, Laurent Fréchuret, donc, ainsi que Jean-Claude Bolreda, pour, je l'ai même pas indiqué tout à l'heure, pour la pièce En attendant Godot de Samuel Beckett, 1952 ou 53. C'est pas très très net. On va demander
49.
À Laurent.
48.
Oh là là, alors
il, mieux. 49.
Il a commencé à écrire en 48.
Oui, c'est vrai.
Et
il a peut-être même pensé en 47, hein, peut-être 46.
Peut-être.
On n'a pas dit bonjour.
Exactement.
Bonjour en tout cas.
Bonjour.
Nous sommes en 2016.
Oui, et bonjour.
On écoutait MC Pampi et Soupa l'oignon, le rap stéphanois avec l'action Gaga, et c'était un petit clin d'œil. Une journée de fou passée à Saint-Étienne, mais... Monsieur Laurent Fréchuret ici présent, on a passé pas mal des journées de fou à Saint-Étienne.
Pour moi, c'est la plus belle ville du monde.
Il l'a dit.
c'est dingue. On autorise, on peut raconter des mensonges comme ça à l'antenne, c'est pas un problème. Eh ben, très bien. Menton. Laurent, pourriez-vous effectivement, voilà, peut-être revenir sur ces quelques années stéphanoises et puis vous présenter un peu, indiquer votre
parcours. Je sais
pas, parcours et puis cette profession de metteur en scène. Avez-vous, par exemple, déjà même une première question, est-ce que vous avez déjà été comédien vous-même?
Oui, alors moi j'ai commencé le théâtre parce que ma mère m'avait inscrit de force au centre social de Villars, à côté de Saint-Étienne. Et à 12 ans, j'ai commencé à faire du théâtre. Et j'ai adoré qu'on rigole et qu'on invente des histoires comme ça ensemble avec des amis.
Ah, mais alors comédien ainsi que dramaturge, je vous ai
non,
début,
comédien,
oui.
Comédien.
Mais vous dites inventer des histoires.
On inventait. Ah oui, on écrivait un peu, etc. Ouais. On collait des affiches, on se trimballait dans les rues de Saint-Étienne. Et on montait des petites compagnies amateurs comme ça, jusqu'à l'âge de 18 ans, où là, dès que j'ai eu le bac, j'ai tout arrêté pour faire du théâtre. Sur le terrain, dans diverses compagnies, stéphanoises, Rhône-Alpes, etc. Et puis c'est en 94, suite à la lecture justement de, ça a été le début de l'aventure avec Beckett, puisque je lis Molloy en 91, je crois.
Molloy, est-ce roman ou
voilà,
théâtre?
Voilà, un des romans de Beckett. Et là, c'est le flash. C'est vraiment là où je me dis, c'est ce genre d'écriture qui m'intéresse. Et il y a du théâtre dans des choses qui ne sont pas forcément des pièces. Hein. Donc on fait des adaptations, des collages, des cut-up, comme on dit, à partir de toutes sortes de poètes au sens large du terme, qui sont Beckett, Cioran, Artaud, Burroughs et d'autres. Et donc ça a été le théâtre de l'incendie, ma compagnie, qu'on a créé en 94, qui a duré 10 ans. On a fait une vingtaine de pièces. Et puis ensuite, on m'a proposé de postuler pour diriger un théâtre, un centre dramatique à Sartrouville. Ça a duré encore 10 ans, à peu près 9-10 ans. Donc de 2004 à 2012, j'ai animé cette grande équipe de 50 personnes et avec un gros théâtre en banlieue parisienne. On a fait des tas de pièces, mais aussi de chantiers avec la population, chantiers théâtraux avec des fois 150 personnes sur scène, de 6 à 80 ans. Donc on a vraiment... C'est toujours cette obsession, je dirais, d'inventer ensemble.
Et pas seulement du théâtre, je crois, parce que je...
Non, mais on mélange les arts frères, tout est théâtre. Les choses étaient moins séparées avant, la danse, la musique,
le cirque,
le texte,
évidemment.
Oui, le cirque, qu'on appelle le corps, le corps et l'esprit, en un seul homme.
Et qu'est devenu le théâtre de l'incendie?
Alors le théâtre de l'incendie avait été mis en sommeil pendant l'aventure au CDN de Sartrouville, et puis comme j'ai décidé d'arrêter en 2012, pour réveiller la compagnie, je suis revenu à Saint-Étienne, et c'est depuis 3 ans l'aventure en compagnie, où après Richard III, on s'est dit, tiens, on va continuer avec Beckett, hein. On avait il y a 10 ans monté Olé Beaux Jours, on a fait une pièce radiophonique qui s'appelle de Beckett, qui s'appelle Tous ceux qui tombent, qu'on a édité en livre-disque avec les éditions de Minuit, et donc l'aventure avec Beckett, qui est quand même mon obsession, c'est quelque chose qui me transporte et qui me donne de l'énergie pour continuer cette recherche avec Beckett. On s'est dit, on va s'attaquer au chef-d'œuvre de Beckett, à la pièce emblématique, puisque en vieillissant, on s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment maintenant. Et là, je suis tombé de découverte en découverte, puisque en travaillant ce texte, j'ai vu à quel point c'était un chef-d'œuvre, effectivement. Alors que j'en doutais un tout petit peu au début. Au début, je disais, oh, c'est la pièce la plus connue, elle est souvent montée, etc. Et tout ça, ça a été grâce à Jean-Claude qui est là, Jean-Claude Bolreda, et les autres comédiens, hein, Vincent Schmitt, David Doury, Maxime Dambrun et Antoine Besson, qui font un quintet pour moi, vraiment, une bonne distribution, c'est la moitié du boulot, on le sait. Je pense que là, vraiment, je suis très très heureux et j'ai eu beaucoup de chance, parce que c'est pour moi, c'est vraiment la distribution idéale pour incarner cette pièce qui est en même temps tragique, comique, burlesque, politique, poétique, et pas du tout absurde. Voilà. Excusez-moi, ce chapeau était un peu long, mais...
Ah non, c'est
métaphysique
parfait.
Métaphysique.
Pour évoquer un petit peu Richard III, c'est ce que j'annonçais, c'est ce que j'indiquais en début, en prenant l'antenne tout à l'heure. Il n'y a pas tout à fait 2 ans, c'était en avril, je crois même que c'était le 23 avril. Pourquoi me rappelais-je de cette date? C'est parce que le 23 avril, je crois bien que c'est le jour à la fois de la naissance...
C'est Shakespeare.
Ainsi que celui de la mort de Shakespeare. Mmh. Et donc cette émission, il y a 2 ans, c'était à l'occasion de Richard III, dans laquelle vous-même, vous jouiez également, Jean-Claude Bolreda. Et il me semble avoir lu quelque part, je pense pas que soit Maury ni Jessica qui l'a dit à l'antenne, c'est eux que nous recevions, que vous étiez venu à Shakespeare par Beckett.
Oui,
c'est ça.
Oui, parce que Beckett, dans Fin de partie, parle beaucoup de lire et de son fou. Il fait beaucoup d'allusions à Shakespeare, oui, bien sûr.
Et donc, fin de partie alors. Et c'était une autre chose que je souhaitais vous demander. Vous l'avez-vous déjà monté? Souhaitez-vous
non.
le faire?
Non. Et alors, on en parlait hier, justement, avec David Oury. Et peut-être que oui, ça donne l'envie de s'attaquer à cette autre grande pièce de Beckett que j'ai jamais mis en scène.
Un quartet de comédiens, c'est ça? Âme, Clove, et puis
oui,
les,
voilà,
les deux
et
parents,
puis les deux parents dans
les
poubelles.
Les poubelles, c'est ça.
C'est Joël Joanneau qui avait fait une très belle mise en scène il y a une quinzaine d'années de ça.
Transition peut-être, Jean-Claude Bolredas, ça vous dirait, vous, d'incarner un des personnages
de... Est-ce que tu aimerais être dans une poubelle, déjà? ou ailleurs?
Je crois qu'il préférerait être ailleurs que dans la poubelle. J'aime beaucoup la pièce aussi, fin de partie. J'ai vu dernièrement, elle a été montée à Lyon, dans le théâtre ou Espace 44 dernièrement. Je ne sais pas si vous les avez reçus. C'était bien. Il y avait notamment mon ami Jacques Pabst qui jouait dedans, qui était formidable.
Donc on le comprend ce que vous dites, vous êtes lyonnais, Jean-Claude, c'est ça?
Je suis lyonnais, enfin,
vous bistez,
j'habite Lyon, oui c'est vrai, je suis né dans le Houdou, en fait, dans un petit village entre Morteux et Pontarlier, et je suis venu faire des études de sociologie à Lyon.
Ah donc pas tout de suite le théâtre, donc c'est ça, c'est...
Alors si un petit peu quand même, parce que je faisais du théâtre universitaire. En fait, il y avait un lien direct entre le je faisais du théâtre universitaire et en fait la sociologie ne m'intéressait pas vraiment, donc je voulais être diplômé un minimum pour rentrer dans l'administration et pour payer mes études. Je travaillais comme à l'époque on appelait ça pion, enfin surveillant, et en fait j'étais je vivais au jour le jour, c'était très très déprimant, c'était les années les plus déprimantes de ma vie, et donc je ne voyais pas comment rentrer dans l'administration, donc je ne préparais pas les concours, je ne les avais pas, et alors que c'était pour moi un peu surréaliste au début, de par mes origines, c'était même une hypothèse qui était même pas envisageable d'être acteur, venant de mon milieu. Et puis tout d'un coup, presque par dépit, je dois dire, j'ai fait le pas, j'ai recontacté les gens que j'avais connus au théâtre universitaire. Certains étaient passés professionnels. Et donc, je suis devenu professionnel, si on peut dire, avec quelqu'un qui m'avait mis en scène au théâtre universitaire, qui s'appelle Claude-Pierre Chavanon. Voilà.
Vous avez quand même bien fait, parce qu'il y a un don, il y a une forme de génie, vous êtes absolument génial dans Estragon, dans cette pièce, en Attendant Godot.
Les auditeurs ne peuvent pas voir, mais je suis rouge de confusion, comme mon micro et mon gilet.
Non, vous l'avez dit, et puis enfin, vous en êtes un peu conscient, puisque enfin, comment dire, vous nous avez dit hier avoir été content d'avoir pu susciter l'envie chez Laurent Fréchuret de monter cette pièce, puisque c'est en vous... C'est en pensant à vous, c'est en vous contactant que, enfin, du moins,
c'est quand on travaillait sur Richard III, en fait, qu'avec Jean-Claude, effectivement, que mon obsession de Beckett m'a repris parce que j'ai vu Jean-Claude et j'ai dit, mais c'est vraiment un acteur beckettien parce qu'il y a en même temps le corps et l'esprit, en fait, pour tout dire. Il y a en même temps la voix et le burlesque et le tragique.
Le touchant.
Le touchant et la réflexion et la pensée. Bon, voilà, il y a une présence forte.
Tous les degrés du rire jusqu'au rire grinçant et le monde noir, même.
Oui, tout à fait.
J'avoue que c'est une partition absolument idéale pour un acteur. Enfin, voilà, en tout cas pour moi, à ce moment précis. Et c'est pour ça que je suis quand même très reconnaissant envers Laurent Fréchuret. Qui m'a et je dois dire c'est le premier, je crois, j'ai pu oublier, mais je crois que c'est le premier qui monte un projet en pensant à moi au départ. Donc voilà, je peux être que très heureux.
fier, vous avez raison, parce que c'est pour le coup la chose marche complètement, tout à fait. Peut-être avant davantage entrer dans le détail de cette pièce En attendant Godot de Samuel Beckett, donc donnée au théâtre de la Croix-Rousse jusqu'au samedi 30 janvier, ça fait donc un paquet de dates. Qu'est-ce qu'on pourrait encore évoquer, Gérald, tu souhaitais
à 20h, hier on était à la première, donc c'est pour ça que vous êtes là aussi, on tenait à voir le spectacle. On a pu le comparer avec une mise en scène en début d'année au Célestin, on va pas épiloguer sur le sujet. Et il y a eu vraiment un grand succès hier, une standing ovation, on peut le dire. C'était moi personnellement, j'ai passé un excellent moment et c'est excellemment rythmé. Tous les acteurs, comme vous le disiez, incarnent vraiment merveilleusement les personnages.
Moi, je pourrais dire merci aux têtes de la Croix-Rousse et à l'équipe de Jean Lacornerie, Anne Meillon et toute l'équipe, parce que vraiment, ils nous ont fait confiance il y a 2 ans quand on est revenu dans la région et qu'on a dit on aimerait vraiment monter Godot. Il y a 6 ou 7 mises en scène de Godot qui tournent en France actuellement, c'est formidable, donc moi je les ai toutes vues, parce que j'adore aller voir les autres traductions scéniques d'un même texte qu'on travaille, nous. Et vraiment, la Croix-Rousse, ils nous accueillent très très bien, c'est un vrai bonheur de revenir à cette Croix-Rousse, où j'ai commencé, moi, avec des textes de Beckett, Malot de Meur, Molloy, il y a 22 ans, en 94, à l'époque c'était Philippe Faure qui dirigeait, et Jean-Jacques Lérand qui nous avait fait une carte blanche, jeune compagnie émergente. Donc là on émerge un tout petit peu plus, tant qu'on n'est pas immergé bientôt.
Avant de parler de la pièce plus en détail, du spectacle,
je voulais évoquer Grégoire Solotareff. Non, Gérald,
on peut en parler 2 secondes. Moi je voulais revenir, la dernière fois que j'ai entendu parler de Laurent Fréchuret, je parle pas d'il y a 20 ans à Saint-Etienne, mais c'était pas une scénographie sur Britton, un opéra de Britton à l'opéra?
Ah oui, il y a longtemps, oui, il y a une quinzaine d'années.
Ben voilà.
C'était Le viol de Lucrèce de Britton.
Ben, j'avais beaucoup apprécié la scénographie, voilà. Je voulais le dire. C'est pour ça que j'ai amené un petit peu de Britton, on écoutera un petit morceau.
Alors attention, scénographie ou mise en scène?
Scénographie ou mise en scène?
Et c'est pas pareil.
Est-ce que c'est la même chose? C'est pas pareil.
Ah non,
scénographie, c'est plutôt le décor, on va dire l'espace.
Mais mise en scène?
Mise en scène, ça se déploie dans l'espace. Voilà.
Direction.
Mais c'est relié. Oui. De toute façon, c'est relié. Sur Beckett, par exemple, Beckett est un formidable auteur, certes, mais metteur en scène et scénographe. Il est obsédé par l'espace. Il a une idée quand il dit c'est un espace vide avec un arbre. C'est déjà une vision qu'il a, et il était obsédé par la peinture, puisque c'est un tableau du 19e siècle de Gaspard Friedrich, je crois, qui s'appelle Deux hommes regardant la lune.
On en a parlé.
Et donc, en regardant la lune, ils sont pris d'un état de mélancolie ou de réflexion ou d'empathie l'un envers l'autre, et ça leur fait penser à des choses métaphysiques. Et c'est en voyant ce tableau dans un musée à Berlin dans les années 30 que Beckett va avoir l'idée d'écrire 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, En attendant Godot.
Un déclic d'un tableau. Ça aurait pu être Le moine devant
la
mer aussi.
Il a des visions, comme ça, vous savez, où les beaux jours, Winnie qui est enterré dans une butte.
Et moi, j'ai pensé aux chaussures de Van Gogh aussi, parce que ces chaussures, elles tiennent une place énorme dans cette. Les accessoires, c'est du minimalisme,
c'est
le dénuement.
C'est bien que tu dis ça, parce que les
accessoires. Pas vraiment des accessoires, c'est plus que ça. Parce
c'est des objets.
C'est les Godiots de Van Gogh, le tableau de Van Gogh.
Oui, c'est des objets emblématiques.
C'est l'histoire de la peinture là-dedans.
C'est des objets rayonnants, c'est très important, le moindre accessoire. Un petit bout d'aluminium, un os de poulet.
C'est ça.
On est des fois dans l'art brut ou dans des choses comme ça avec Beckett.
Et des tas d'objets presque.
Qui était obsédé par Bram Van Veld ou par Giacometti.
Avec lequel il a écrit ce fameux livre. Lequel il a écrit.
Les années 50, c'est vraiment une décennie.
L'écriture griffée, pour parler de Saint-Etienne.
Magnifique.
Expo historique au Musée d'art moderne de Saint-Etienne. Toute cette période qui sort de la catastrophe.
Exactement.
Il faut continuer à faire quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
C'est bien d'affirmer que si on a envie de monter cette pièce, c'est que Beckett sort de la résistance. Beckett est tout l'inverse d'absurde, mais il est très concret. Il réinvente la langue française qu'il ne parlait pas à l'âge de 20 ans. Il va devenir un prix Nobel de littérature française. C'est quand même pas mal. Et il reconstruit même une partie du pays, puisqu'il va travailler à Saint-Lô, à reconstruire le village de Saint-Lô en Normandie en 48, quand il écrit Godot, avec la Croix-Rouge irlandaise. Donc c'est quelqu'un qui a une pulsion de vie, de reconstruction positive, une pulsion de vie. Donc c'est tout l'inverse d'un Beckett dépressif, qui serait en plus autiste dans sa bulle esthétique. Pas du tout, c'est quelqu'un qui est ancré dans la politique, dans l'engagement, dans la vie, et dans le travail d'une langue qui lui était étrangère au départ. Donc c'est un résistant en même temps politique, mais aussi à tous les niveaux de la création.
Voilà. Ce qui se fait mentir la fameuse phrase d'Adorno après la Shoah ou après la catastrophe, on ne peut plus rien faire.
Oui, je crois que dès 48, 3 ans après, il dit cette célèbre phrase, il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer. C'est tout le projet.
Repartir à zéro, je pensais à l'expo qu'il y avait au Beaux-Arts à Lyon aussi, sur ce thème-là.
Il y a quelques années.
Comment on repart à zéro?
phrase que nous confiait hier Maxime Dambrun, qui incarne Lucky dans cette pièce En attendant Godot. Il nous disait la pièce de Beckett est une pièce obsédée par la mort, mais il faut qu'elle soit faite avec des comédiens qui sont obsédés par la vie. Était-ce votre cas? Parce que moi, je reviens à ma question, Jean-Claude Bolreda. Était-ce un peu votre cas pour cette participation, donc, comment nommer ça, une participation vocale à ce dessin animé U de Grégoire Solotareff? C'est, enfin, pour terminer peut-être cette présentation, ce portrait, là, on rentre beaucoup dans la pièce. Alors, enfin, il faudrait peut-être plutôt l'évoquer dans un deuxième temps. Pour terminer ce portrait des invités, on vient d'indiquer, Laurent Fréchuret, que voilà, vous avez conçu des mises en scène pour des opéras. Vous, Jean-Claude Bolreda, on vous connaît pour peut-être donc Richard III il y a 2 ans qui avait été donné pour d'autres rôles au théâtre. Télévision, cinéma, premier rôle ou donc participation vocale pour ce dessin animé, vous avez fait différentes choses. Oui,
j'ai fait différentes choses et vu mon âge, j'ai fait donc beaucoup de choses. Et je dis ça pour pas complexer les gens qui, parce que les gens qui ont 25 ans n'ont pas fait. Ils peuvent avoir beaucoup beaucoup plus de talent, mais moins d'abattage. Voilà. Alors oui, j'ai fait beaucoup de participation au cinéma et à la télé. Mais quand même, ce qui fait quand même ma colonne vertébrale d'acteur, c'est quand même le théâtre. Mais j'ai fait effectivement des choses. Souvent j'ai des participations assez courtes, hein, il faut bien le dire, au cinéma, à la télé. Et puis des fois un peu plus quand même. Donc voilà. Aussi, ce qui se passe, c'est que j'ai pas énormément de temps aussi pour y consacrer, mais aussi j'ai pas non plus de propositions colossales de temps en temps, quoi. Effectivement, vous faites allusion à ce dessin animé, oui, on appelle ça comme ça, hein,
un film d'animation de
Grégoire Solotareff. Et effectivement, c'était très agréable de rentrer dans cette histoire. Enfin,
c'est un bon film d'ailleurs.
C'est un beau film. Et c'est marrant parce que maintenant, ça, il y a quand même quelques années, et on en parle assez régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, je l'ai passé beaucoup. C'est un film que les gens ont vu beaucoup, beaucoup. Ça veut pas dire forcément. Quand c'est sorti, hein, c'était pas du tout comparable au niveau chiffre avec des Walt Disney. Hein, oui, genre ça a fait 300 000 entrées, un truc comme ça, ce qui est pas mal, mais surtout c'est un truc qui reste dans le temps. Et je suis étonné, très souvent on me reparle de ça, et donc c'était extrêmement agréable. Oui, voilà. Donc mais c'est pareil, ce sont des choses qui se font très vite, hein, ça s'est fait en 2 jours et demi, hein. Mais avec des, enfin, c'est vrai que c'est des beaux souvenirs. Enfin, d'être au micro comme ça avec des gens, là il y avait Bernadette Lafont qui faisait. Donc j'étais le. Il y a une jolie scène qu'il y avait avant que j'avais mis sur mon. Comment on appelle ça? J'ai une bande démo, quoi. Enfin, j'ai un site. Et en fait, là je l'ai plus. Mais c'est dommage, c'était assez amusant, quoi. Une scène de drague entre ce sort de vieux rat, tyrannisé par sa mère. Et Bernadette Lafont était une sorte de personnage un peu, une sorte de lapin, de lapine. Et donc j'étais fou dingue. Elle semblait pas trop comprendre. Elle commentait ça avec son mari. Et voilà. Donc c'est des situations très drôles, enfin, très drôles et très profondes aussi, hein. Enfin, c'était un très beau film d'animation. Voilà.
Vieux rat, j'ai entendu, moi, ça me rappelle les souvenirs. Vous êtes pas un peu obsédé du navet aussi?
Ça, c'est pas
en. Et il y en a d'autres.
Allez, moi, je vous vole ces deux mots, très drôles, néanmoins profonds, pour qualifier aussi cette pièce En attendant Godot, donnée ces jours-ci au Théâtre de la Croix-Rousse. Pause, Gérald, qu'est-ce qu'on écoute?
On va écouter très très peu de temps, puisque bon, c'est une symphonie pour Samuel Beckett de Morton Feldman, dans la lignée de la musique, on va dire, monotonale, atonale, répétitive américaine à la John Cage. Juste comme ça, hein, pour Beckett.
Premier
San Francisco Contemporary Music Players. Wow. Stéphane Mosco, Music Director. On écoute le début.
Premier mouvement. Voilà. Bon.
Un disque qui vient de New York. Qu'un Stéphanois m'a ramené. Je le remercie encore.
tu crains plus rien, regarde.
Et nous reprenons Géraldin, on va pas entendre en,
oui, Morton Feldman.
En intégralité.
Fort Samuel Beckett.
Voilà, pour indiquer, pour reparler.
47 minutes.
Je peux encore donner peut-être d'autres précisions plus précises. Cette pièce est donc donnée en attendant Godot de Samuel Beckett. Elle est donnée au théâtre de la Croix-Rousse. Elle est donnée du 19 au 30 janvier, c'est-à-dire, eh bien, tous les soirs de semaine à 20h, sauf les samedis. Là, ce premier samedi qui arrive, puis le samedi de la semaine prochaine, la dernière, ce sera à 19h30. Relâche lundi. Et dimanche également, je crois, non ?
Oui, il y a les samedis, c'est à 19h30, c'est ça ?
C'est ça.
Et puis, sinon, c'est du mardi au samedi.
Au vendredi. Et le samedi à 19h.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça.
Et la durée de la pièce, très important.
1h55.
1h55. Sans entracte.
Avec interlude. Bon.
Oui, c'est vrai que c'est très important, ces choses-là, parce que souvent on dit Godot, il y a marqué acte premier, acte deuxième, et puis entre les deux, il y a marqué rideau. Alors c'est sûr qu'avant, il y avait des rideaux déjà aujourd'hui, il y a rarement des rideaux. Et on a souhaité enchaîner directement et faire un interlude. Ou juste l'arbre, tout à coup, on lui pose trois feuilles et ça montre bien qu'il y a un changement. Et cette idée que l'acte 2 est une reproduction, ça recommence pour un tour, que la vie c'est l'éternel retour, c'est toujours pareil. Je pense que ça c'est une idée universitaire qui est finalement assez fausse quand on lit bien le texte, puisqu'il y a autant de choses similaires dans l'acte 2 que de choses différentes. Et on a décidé de travailler sur les choses différentes comme un espoir d'une évolution, d'un changement, parce que c'était intéressant d'essayer cette hypothèse qui est pas plus mauvaise qu'une autre, hein. Je dis pas qu'elle est forcément meilleure, mais en tout cas au niveau théâtral elle est intéressante parce que dans l'acte 2 Estragon trouve chaussure à son pied, Vladimir trouve chapeau à sa tête, l'arbre se voit pourvu de trois feuilles, ce qui est déjà pas mal, alors qu'avant il avait rien.
Trinité peut-être, allusion biblique.
Il y a toutes sortes de petites choses comme ça qui font que finalement, la vie, c'est peut-être toujours pareil, mais c'est un petit peu différent, et que ça, c'est déjà pas mal, quoi. Alors, plutôt que de dire qu'il y a déjà une théorie à monter, que c'est toujours pareil. Je pense que c'est faux, c'est une idée qui était bien de remettre en cause, et qui nous a servi, nous, vraiment, de montrer les différences entre l'acte 1 et l'acte 2.
Pozzo est complètement transformé.
Mais oui, en plus, exactement.
Si on a un qui se transforme, c'est vraiment Pozzo.
Pozzo, donc ce personnage qu'on avait vu à l'acte 1 revient, il est aveugle. C'est une sorte d'Édipe des temps modernes ou des temps post-Seconde Guerre mondiale. Et Lucky, le personnage qui pensait à haute voix, bon, sa pensée était un peu déstructurée et tout à fait réjouissante, oui. Et en même temps apocalyptique, mais il devient muet dans l'acte 2. Donc il y a quand même des choses qui changent. Et c'était bien de travailler sur les différences. Et puis c'était bien pour moi de ne pas couper surtout cette pièce par un entracte, parce que tout à coup ça fait une redite ou ça fait une pause. Je trouve que c'est un peu dangereux de mettre une pause d'une demi-heure ou de 20 minutes à ce moment-là. Tout ça dans le cadre d'un Beckett, d'un Godot qu'on a voulu faire extrêmement jazz, j'allais dire rythmé, plein de ruptures, de contrastes et de rythmes. Et donc, il fallait s'enquiller, pour moi, joyeusement, les deux actes et faire un Godot, un des plus rapides Godot de l'histoire des Godot, puisque je crois que c'est dur de faire moins de 1h55.
Mais du coup, les silences ont une portée quand il s'agit d'un silence angoissant, d'humour noir après une réplique. Par exemple, on se donne l'impression d'exister et le silence qui vient après cette réplique prend un poids métaphysique, un poids tragique qui est peut-être très plus efficace. Je ne sais pas. En tout cas, les silences ont un autre poids.
Beckett écrit beaucoup, beaucoup de didascalies. Il y a deux sortes de didascalies. Il y a des didascalies qui sont purement comme une partition de Boulez, Paix à son âme, ou de je ne sais qui, de Morton Feldman. Beckett était obsédé par la musique. Il jouait des sonates de Schubert au piano. Sa femme était pianiste, etc. Il était vraiment obsédé par la rythmique. On le voyait, il était metteur en scène, hein, des fois, Beckett. Il a mis en scène certaines épées. On le voit, les rares documents filmés de Beckett, on le voit, il fait aucune indication psychologique. Il ne fait que des indications d'espace. Trois pas en avant, deux pas en arrière, lève le bras, et de rythme. Oui, rythme, comme ça, en claquant dans les doigts. Ce qui veut dire qu'il marque un temps, un long temps, un petit temps, etc. Et toute la question, c'était de trouver qu'est-ce que c'est que la valeur de ce temps. Mmh. On a essayé avec 2 secondes, c'était interminable, ça devenait cérébral, et ça faisait trop réfléchir, et on s'ennuyait. Et tout à coup, quand on s'est dit que ces temps étaient un arrêt tonique, une chose très courte, peut-être, mais une rupture, juste comme ça, une réaction, et hop, on passe à autre chose, comme si on marquait un point et on repartait. Un arrêt très court, ça marchait. Mmh. En tout cas, pour ce qu'on cherchait, nous.
Oui. Le public l'a senti aussi, je crois.
Et ça, c'est des questions très intéressantes, parce que c'est comme un chef d'orchestre qui, tout à coup, dit à quel tempo on va jouer la 5e de Beethoven. Moi, j'écoutais Karajan la semaine dernière, j'avais oublié que c'était aussi rapide et en même temps fluide, je dirais pas. C'était pas. Vous voyez ce que je veux dire.
L'impression.
Donc c'était très 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 agréable par rapport à d'autres qui faisaient des trucs beaucoup plus lourds et lents.
Et dilués.
Enfin voilà.
C'est le metteur en scène de cette pièce, En attendant Godot, qui nous parle à l'instant, Laurent Fréchuret, et vous, Jean-Claude Bolreda. Moi, j'ai été admiratif tout à l'heure, enfin, du moins, j'ai été admiratif hier, mais vous avez utilisé ce terme tout à l'heure, le terme de partition. Toi, à l'instant, Gérald, tu parles de pause de silence. Moi, il me semble qu'à d'autres, très souvent, il y a un duo que vous formez, Jean-Claude, ou disons, Estragon, vous formez un duo avec Vladimir. Les répliques s'enchaînent, il n'y a aucun temps d'attente, et d'ailleurs, pour le coup, ça peut presque paraître... je dirais volontiers, enfin, faux ou un truc qui marche pas, et en fait non, ça marche bien. Vous enchaînez les répliques, il y a, c'est vrai, on attend, oui. Enfin, je sais pas comment dire, il y a tous ces petits termes, et là, pour le coup, il n'y avait aucunement un temps qui était indiqué. C'est peut-être ça, Laurent Fréchuret qui fait la rapidité. Ça marche donc comment, Jean-Claude Bolreda, vous? Et en plus, vous regardez bien, vous n'aviez aucun regard pour votre partenaire David Oury qui incarne Vladimir, vous ne le regardiez pas, mais les répliques marchent, la partition fonctionne.
Il le regarde parfois.
C'est quoi? Oui, bien sûr, mais là, dans ces moments que je suis en train d'évoquer, il faudrait que je prenne le texte sous les yeux.
Oui, non, mais j'entends bien. Et pour répondre, en fait, disons, c'est une question assez vaste, en fait. La première réponse, c'est le parti pris de Laurent, qui m'a semblé très juste et qui permet de relativiser un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Laurent a toujours dit que c'est une partition à quatre, plus le garçon, mais c'est une partition un peu, on va dire, marginale, le garçon. Mais que c'est une partition à quatre et aucun moment. Et voilà, c'est pour ça que quand on parle de premier rôle, c'est un peu compliqué parce que le problème ne se pose pas du tout comme ça. C'est-à-dire, c'est une partition à quatre et même pour le personnage de Lucky qui en tout et pour tout a un long monologue au niveau de la parole et qui ne parle pas autre temps à d'autres moments. Il a toujours été précisé que c'était une chose à quatre, que en tout cas quand on était les quatre sur le plateau, c'est donc une chorégraphie à quatre et non pas voilà ça, et ça se posait comme ça et tout le travail a été dans ce sens-là. Et bon, si je viens sur l'autre question, les regards. Alors, donc ça, c'est un peu un autre chapitre. Le travail de la mise en scène, disons, il y a deux volets. Premièrement, il faut vraiment tenir compte du... Il y a un côté un peu vaudeville, c'est-à-dire qu'on parle aux gens. C'est-à-dire...
Il y a une adresse publique.
Tout le long du travail, il y a eu beaucoup d'insistance sur le fait qu'on regarde le public, qu'on parle aux gens. Et puis aussi, avec David Oury qui joue Vladimir, avec qui je m'entends comme larron en foire. Enfin, vraiment, c'est un acteur merveilleux. Enfin, c'est vraiment, il est vraiment formidable. Et le principe, quand même, quand on parle, même quand on parle dans la vie, pour faire entendre quelque chose à quelqu'un, on n'est pas obligé de regarder dans les yeux. Et donc, ce sont des choses assez subtiles qui fonctionnent, même si je regarde le public. C'est évident que je parle à David et enfin, oui, voilà, c'est une sorte de triangle. Mais en plus, je le regarde quand même très souvent. J'allais dire aussi souvent que le public, quand même. Et peut-être, alors, à ce moment-là, c'est aussi que ça touche, enfin, tout ce mélange, hein, au niveau des arts. Ça touche un peu, d'une certaine manière, au système de la commedia dell'arte. Mmh. C'est-à-dire, le principe de la commedia dell'arte, c'est celui qui parle, il parle au public, et les autres regardent celui qui parle. Mais c'est une mécanique. C'est une mécanique, voilà. Donc nous, on n'est pas dans une mécanique. Mais quand même, c'est une chose qui nous nourrit. Il y a quand même quelque chose. Mmh. Ai-je répondu aux questions que...
Ce n'est pas du début à la fin de la pièce, mais c'est pour des moments. Là, par exemple, je sais pas, je tombe sur la page 52 dans les éditions de minuit sur, voilà, Estragon et Vladimir. Donc, Estragon, vous-même et Vladimir David Oury enchaînent les répliques. Moi, enfin, j'appellerais ça vraiment enchaîner. Du moment qu'on est prévenu, On peut patienter, on sait à quoi s'en tenir, plus d'inquiétude à avoir, il n'y a qu'à attendre, nous en avons l'habitude. Et puis Pozzo intervient pour dire comment m'avez-vous trouvé, et puis enfin il y a une suite. Mais moi il me semble ce type de réplique-là, les choses s'enchaînent et c'est peut-être ce qui fait que justement vous gagnez en termes de temps. Laurent Fraîchuret, 1h55, top chrono, c'est la pièce recordman, enfin du moins pour la briefer, tant mieux pour le jeu. Mais moi il me semble qu'il y a un truc et ça marche justement, là j'ai vraiment place au terme. Il me semble, dans l'absolu, on pourrait dire qu'il y a un truc faux, les répliques s'enchaînent trop, des élèves au collège qui enchaînent les trucs, mais là, pour le coup...
L'exemple que vous donnez est un exemple particulier, et la réponse est simple, c'est-à-dire, en fait, on est à deux à porter un texte très simple, c'est une justification devant le public, voilà, bon, bah, c'est comme ça, c'est vrai,
et on explique... C'est une conversation.
C'est une conversation, mais on explique au public, quoi, que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, bah voilà, on est prévenu, et puis voilà.
Disons que si on en revient au titre, c'est pas « on attend Godot », c'est « en attendant Godot », qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que Godot soit un passeur pour passer une frontière pour ces deux errants, ces deux migrants, dire aujourd'hui, qui errent, ou si Godot est Dieu et qu'ils attendent du sens à leur vie métaphysique avec sa barbe blanche, etc. Il faut en même temps pas trancher sur Godot, il faut vraiment que chacun puisse voir son Godot. Ça c'est intéressant, je crois que c'est pas du tout intéressant de dire la mise en scène, ça serait de définir que Godot est un passeur de frontières, ou est Dieu le Père, ou le Dieu de telle religion, etc. Ça n'aura aucun sens. Par contre, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir, mais qu'on attend, on attend dans le sens esperar. Donc c'est quelque chose de positif. On s'est dit, on est joyeux d'attendre ça. C'est une pulsion de vie qui nous fait continuer. Espérance. On n'est pas désespéré parce qu'on pense qu'il y a un Godot. Qu'est-ce que c'est que Godot qui va arriver? Mais le titre, c'est « En attendant Godot ». Ce qui est beau, c'est que les hommes, en attendant que ce soit Dieu ou un passeur, machin, ils s'inventent des histoires pour remplir le vide du temps, le vide de l'espace. Et tous ces jeux, ça va être des jeux burlesques à la Buster Keaton ou à la Chaplin, comme des jeux de mots avec ce Beckett qui est obsédé par un Français qu'il entend dans les cafés, dans les bistrots, dans les rues de Paris, ne l'oublions pas, ou de Roussillon quand même, pendant la guerre, quand il a fui dans le sud de la France pour fuir la Gestapo, puisqu'il faisait partie d'un réseau de trafic de microfilms. Donc ça, c'est des choses très concrètes. Avec sa femme, ils ont traversé les forêts, tout et tout. Donc ils sont un peu Vladimir Estragon, Beckett et Suzanne, sa femme, sont un peu des prototypes. Puis Beckett et un peintre qui s'appelait Haydn, qui était juif, sont des prototypes aussi, qui ont inspiré Beckett pour Vladimir Estragon. Tout ça veut dire que il y a vraiment dans l'écriture, si on lit bien, si on prend le temps de lire cette pièce, il y a toutes sortes de jeux avec des petites conversations. Par exemple, quand il dit « Mais pourquoi vous ne me répondez pas ?» Ben, on aurait peur de vous dire une connerie. Mais ça, c'est des trucs que Beckett a entendus dans les cafés à Montparnasse ou à Montmartre. C'est-à-dire qu'il a une gourmandise du mot français parce qu'il apprend. À un moment, le personnage en pleine action s'arrête et dit « Cet arbre, encore eût-il fallu qu'on ne s'y soit pendu, pendu, oui c'est ça ». C'est-à-dire qu'il joue même qu'il est en train d'écrire sa pièce, et que le personnage s'arrête sur une phrase en disant « Est-ce que c'est bien ça en français ?» Oui c'est ça. Et donc il y a un jeu vertigineux avec « Je suis en train d'écrire une pièce » et c'est une fiction, c'est un jeu avec les mots. Hein, dans une pièce qui s'appelle La Dernière Bande, le vieil homme face à son magnétophone dit que quand il est désespéré, il dit le mot bobine. Et il dit alors là, ça me fait du bien, je suis chez moi et je dis bobine, bobine. Et donc c'est Beckett qui était obsédé par les mots. Il a dit, hein, je crois dans son journal, à un moment il y a marqué mes seuls amours furent les mots, quelques-uns. Et c'est très beau de voir comment il aimait entendre certains mots en français. Beckett traduisait aussi ses pièces, bien sûr, dans différentes langues. C'était quelqu'un qui parlait et écrivait très bien, bien sûr, l'anglais, l'irlandais, dirait-il, et l'allemand et l'italien, etc.
Pour finir dans ce thème, c'est peut-être la plus grande pièce qui existe sur l'ennui. Et au sens métaphysique du terme, de l'ennui comme dérédiction, pour faire le cuistre. Et en fait, elle est tout sauf ennuyeuse, en fait.
Ben oui, je crois que vraiment c'est ces deux êtres, Vladimir Estragon puis Pozzo et Lucky, vont inventer des choses. Donc c'est génial, quoi, parce qu'ils inventent avec des mots, ils inventent avec leur corps, ils inventent avec leur rien. Ils font quelque chose.
Et le spectateur est prêt à partir, c'est pour ça que c'en est drôle.
Et alors l'adresse publique, c'est important parce qu'en fait on fait partie.
Vous êtes au théâtre, quoi,
de cette famille. Hein. À un moment, il dit l'humanité, c'est nous. Profitons-en avant qu'il ne soit trop tard. Ouais. Ça tient sur nous de rester humain ou de déployer l'humanité d'inventer de l'humanité plutôt que d'inventer de la barbarie. C'est quand même, ça tient à nous. Hein. Mm-hmm. Y a des allusions très très claires au camp de concentration.
Ben, aux cendres, aux plumes.
Oui, il parle des charniers. Sans moi, tu serais un petit adossement. C'est-à-dire qu'il y a une apologie, et une fois de plus, on va contre le cliché de la solitude beckettienne, il y a une apologie de la relation. C'est-à-dire, ils n'arrêtent pas de dire on est lié. Alors, il y a même un mec qui tient son esclave avec une corde. Mais il y a aussi des liens affectifs. Et il y a vraiment, on est lié. L'humanité qui attend ce Godot, elle a un point commun, c'est que nous sommes tous d'origine divine, nous sommes tous des êtres humains, même si on ne se ressemble pas forcément. Et il y a vraiment une apologie de la relation humaine, comme, c'est pas comme celle de l'entreprise, ou de la ressource humaine, mais c'est pas comme dans l'entreprise. C'est pas des mots galvaudés, c'est des mots vraiment que Beckett remet au goût du jour, alors qu'on sort de terribles guerres en 45. Trois ans plus tard, il dit confiance, l'humanité c'est nous, profitons-en avant qu'il ne soit trop tard.
C'est après le bourreau, la victime, parce que c'est
extrêmement fort.
Ce lien, cette chaîne, on voit quasiment un capot, un SS, déporté. Ouais.
Et en même temps, il trouble les pistes parce qu'il dit des fois que l'esclave peut être aussi on peut inverser les rôles, quoi. C'est intéressant quand même.
La dialectique du maître et de l'esclave, hein, cher à Hegel. Je pense que vous évoquez des mots, c'est marrant, vous avez changé le sens de ce mot, Laurent Frécheret. Vous venez de dire un instant, voilà, Beckett remet ses mots au goût du jour, ce serait peut-être davantage comme concept. Moi, je pense à des mots, vraiment, j'ai le texte sous les yeux, où je tombe sur, par exemple, des noms propres, l'Ariège, le Vaucluse, la mer de Cluse, ou bien je tombe sur un autre passage qui est juste après, précisément l'Ariège. Nous irons dans l'Ariège, bah, où tu voudras, 300, 400, j'ai voulu me balader dans l'Ariège, tu t'y baladeras, et là, Estragon intervient. Qui a pété? C'est Pozzo, c'est moi, pitié, c'est dégoûtant, vite, donne-moi ta main. Un peu après, fous le camp, tu restes là. Enfin bref, tous ces mots. Question que je pourrais en tirer pour vous, Estragon, Jean-Claude Bolreda. Comment est-ce qu'on se met en bouche le texte de Beckett? C'est assez facile? Ou au contraire, justement, il y a une complexité alors qu'on pourrait, en le lisant, se dire, bah non, c'est assez élémentaire, les mots coulent de source. Est-ce qu'il y a quand même une difficulté? Parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, Laurent Frécheret, Samuel Beckett, écrivain anglais. Pire, je crois, hein. Irlandais, me semble-t-il.
Irlandais, oui. Il y a une anecdote qui est très drôle. Il y a un homme qui aborde Beckett un jour dans la rue. Il lui dit « Bonjour, vous êtes Monsieur Beckett ?» Oui, oui. « Vous êtes bien anglais ?» Il a répondu « Bien au contraire. » Pour dire irlandais.
Ouais. Donc, ce texte écrit en français par cet auteur irlandais, comment on se le met en bouche? C'est donc simple ou au contraire difficile? Et puis, peut-être, ensuite, une deuxième question toujours que je vous pose à vous, Jean-Claude Bolreda. Comment est-ce que Laurent Frécheret, enfin disons, que vous demande Laurent Frécheret pour ce texte? Est-ce qu'il y a des efforts particuliers?
Alors,
pour l'élocution, c'est parfait. Hein. La diction.
Non, c'est les deux. Hein. Je ne vais pas avoir l'air normand, mais c'est à la fois très très simple et à la fois très compliqué. Parce qu'en fait, justement, il n'y a pas tellement d'évolution. Quoi. Donc, c'est un texte qui piège. D'abord, il n'y a pas énormément de... Ça dure deux heures, mais par exemple, Estragon, il n'y a pas énormément de textes. Enfin, il y en a quand même pas mal. Mais il y a quand même, ça fait quand même, je ne sais pas, 120 pages, quoi. Qui sont, enfin, c'est pas des pages, c'est assez aéré comme page, mais quand même, il y en a quand même un certain nombre. Beaucoup de toutes petites répliques, et qui disent, il y en a beaucoup qui disent presque pareil, mais pas tout à fait pareil. Oui. Et en fait, c'est un peu, l'apprentissage lui-même est un peu diabolique, parce que si on part sur une fausse piste, on est mort, quoi. Et donc, il y a un long travail d'apprentissage du texte, mais une fois qu'on en revanche, ce qui est bien, c'est que c'est très ancré, c'est très concret, et puis on a aussi travaillé sur ce côté concret. Et à partir de ce moment-là, quand on dit des situations simples, limpides, drôles, quand même, c'est souvent drôle, et ça peut se travailler, donc ça exige quand même pour ce qui est du rapport Estragon-Vladimir, une bonne entente, parce que si je m'entendrais pas avec mon partenaire, je pense que ce serait l'enfer absolu, quoi. Enfin, je n'ose même pas imaginer cette hypothèse, quoi. Mais voilà, c'est c'est mis à part cette difficulté quand même technique, ça m'a, ce qui a beaucoup aidé là dans le travail, c'est qu'on a travaillé sur 6 mois, enfin des périodes. On a travaillé d'abord une dizaine de jours, après on a laissé un mois et demi, on a travaillé une semaine, après etc. Et donc, en tout on a travaillé 2 mois, mais sur 6 mois. Et donc ça permet de mûrir. D'infuser effectivement et puis partie par partie quoi. Enfin voilà, il faut, enfin on travaille ça fait voilà, disons ça un peu comme les artistes, il faut travailler comme des artisans sans relâche et en travaillant longtemps ça va et une fois que c'est là ça paraît simple et limpide. Et...
Le temps, c'est un des sujets importants dans l'œuvre, dans Godot. Et c'était une inspiration dans le travail pour monter la pièce. C'est vrai qu'on aurait répété 2 mois d'affilée, je pense que ça n'aurait pas du tout donné la même chose, parce que il faut que ça se dépose, il faut construire peu à peu cette maison qui s'appelle Godot. Et puis on a un peu des pères et des fils qui traversent le temps, puisque je voulais vraiment qu'Estragon et Vladimir soient de 2 générations différentes. Ça, c'était un choix très important pour moi, de montrer que c'est des pères et des fils d'adoption, où d'ailleurs des fois le fils devient le père du plus âgé des deux, qui lui retombe en enfance parce qu'il oublie tout aussi, etc. Et qui a quelque chose d'extrêmement concret et mouvant. Moi, j'ai l'impression que Beckett, c'est quand même quelqu'un qui avait une telle acuité, une telle écoute de la réalité en fait qui l'entoure et de la misère humaine, qui a pas l'ombre de cynisme ou de
complaisance.
Il y a quelque chose qu'il faut respecter dans le travail, c'est-à-dire que tout à coup, moi je les trouve, Jean-Claude et David et Vincent et Maxime et Antoine, extrêmement justes parce que émouvants, comme si c'était 5 personnes qui sont sorties du public et qui montent sur le plateau pour représenter l'humanité. C'est-à-dire que c'est pas du tout on est entre nous, ou alors on est plus intelligent que l'auteur, ou alors on est cynique, on est bobo, on est entre nous. Enfin, ça, au contraire, ça parle à toutes sortes de gens très très différents. C'est, en tout cas, c'était vraiment le vœu de ce travail.
Encore un point commun avec Chaplin, pardon. Voilà. Point commun avec Chaplin, comme il filme la misère ou d'autres choses,
Chaplin
dans The Kid,
le
grand Chaplin, qui touche tous les publics et qui cette humanité en lui, qui
est idole de Beckett,
universelle.
On sait.
Je voulais apporter une précision dans le travail, justement. Je pense qu'il un de nous a eu un travail particulier et vraiment colossal, et qu'il a, c'est Vincent Schmitt qui joue Pozzo.
Oui.
Alors, parce que la partition de Pozzo est vraiment c'est un casse-tête, hein, c'est-à-dire
c'est une partition d'accessoires.
Pour le coup, il y a une partition d'accessoires très très particulière.
Complexe.
Qu'il a dû mener de son côté et avec des choses qui ont l'air toutes simples là, mais par exemple il y a une chose qui nous a fait rire le fouet, c'est il y a un fouet et un fouet ça a l'air de rien, mais il a travaillé ça comme un numéro cirque quoi. C'est-à-dire c'est une chose qu'il maîtrise extrêmement bien, et c'est une chose extrêmement compliquée parce que il y a des gens des fois, des gens montent la pièce avec un bâton avec une ficelle, enfin, etc. Laurent, vous voulez. Là, c'est un vrai de vrai, et ça devient. En fait, c'est une chose. Ça devient une arme. En fait, c'est extrêmement dangereux.
Il s'est d'ailleurs ouvert le menton une fois.
C'est
très dangereux.
Donc, il y a ces trucs techniques, et puis aussi, alors lui, pour le coup, la partition est écrite. Avec les didascalies, ce qu'on appelle les didascalies dans le jargon, c'est ce qui explique, enfin c'est ce que l'auteur écrit des actions à faire en parallèle ou en alternance avec le texte. Alors lui, il en a des tas, et vraiment il a bossé, le travail qu'il a fait est merveilleux, et puis le résultat est là d'ailleurs.
Oui. Et la physique,
je pense que on se rend pas compte forcément que c'est aussi compliqué ce qu'il a eu à faire.
Il me fait penser à la Strada dans Fellini. Voilà.
Oui, oui, c'est personnage vrai. C'est vrai. Mais il y a quelque chose du cirque, du cabaret, du musical, puisqu'on sait que Beckett, dans les années 50-60, sortait beaucoup dans les cabarets, le musical, il allait voir des mimes, de la pantomime. Il a écrit des actes sans parole, des choses sans texte pour des mimes. Il allait même voir des fois des numéros entre cabaret et striptease, parce qu'à Paris, il y avait des choses très, très, très étonnantes là-dessus, très inventives. Et pourquoi je dis ça? Parce que oui, dans les didascalies de Beckett, il y a celle du domaine de la partition, de la musique, on va dire, mais un long temps, on l'a dit, mais il y a aussi des vraies écritures de petits sketchs, de pantomime ou de burlesque. Et alors, toute la partie burlesque, il fallait pas seulement respecter les didascalies, ce serait idiot de dire on respecte, c'est tout. On respecte pas. On les traduit scéniquement, c'est-à-dire qu'on les habite, on les joue avec nos corps, avec nos membres. Donc ça, c'est important de dire qu'il y avait toute une partie, respecter les didascalies qui sont des numéros de cabaret et qui des fois sont bazardés et on garde que le texte et du coup ça devient un peu cérébral. Et pour finir, je voulais dire que le fouet, les coups de fouet, en fait on se rend compte que un coup de fouet c'est un point d'exclamation sonore et que c'est important dans la partition. Et j'ai appris grâce à cette pièce que le fouet c'était la première invention de l'homme d'un son qui dépasse le mur du son. Et que c'est pour ça que les animaux, quand on claque le fouet, les animaux d'un coup sont effrayés ou sont interloqués, parce que tout à coup le fouet c'était le premier objet que l'homme a inventé. Moi je savais pas ça, donc je le dis.
C'était le rhombe, moi, pour que quand il tourne, c'est le rhombe, un des premiers instruments musicaux ou l'arc musical.
C'est incroyable. Hein.
Est-ce que c'est un petit sketch? Il est indiqué là. Je voulais vous lire la question que pose Pozzo après une tirade. Comment m'avez-vous trouvé? Et vous répondez Jean-Claude Bolreda. Vous répondez donc. Enfin, Estragon répond avec un accent anglais. Oh, très bon, très 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 bon. C'était peut-être une dernière question qu'il va falloir poser parce que Pascal arrive pour le boost des calus.
Le temps passe vite.
La justesse, vous l'obtenez comment, vous, pour cette voix, Jean-Claude Olreda? Il y a une voix, là. Cette voix, vous avez à la radio, ça n'est pas la voix d'Estragon. Et ça se construit, ça?
Je sais pas.
Ah, il y a un vrai truc. C'est pas d'Estragon. On attend Godot. Enfin, il y a quelque chose.
J'essaye de pas trop tricher. Mais j'essaie.
20 sur 20, là. Il n'y a pas de triche.
En fait, ça part de la partition, quoi. Ça part de la partition, et voilà. Donc, mais j'avoue que j'ai pas de recette. C'est empirique. Voilà, ma méthode, elle est empirique, quoi. Enfin, donc, ça part pas d'une chose, d'une application, d'une idée intellectuelle qu'il faut que je fasse ça.
Ça s'appelle l'intuition de l'acteur, ça.
Peut-être, ouais. Ouais, ouais.
Eh ben en tout cas c'était très bien. Je crains qu'on ait plus le temps d'écouter des différentes questions. Quartet. Il y a un autre excellent quatuor. Gérald, transition. Oui. Il y a un très bon quatuor. Hein. Quartet.
Ah oui, à propos de Quartet. Et ben voilà, on a une minute pour en parler simplement, très rapidement. Précipitez-vous au théâtre de la Croix-Rousse, évidemment. Voir en attendant Godot. Mise en scène par Laurent.
Il reste quelques places, donc venez.
C'est un grand moment.
Au théâtre de la Croix-Rousse.
C'est un très beau spectacle. Très émouvant. Et vous pouvez aussi aller voir un excellent spectacle aussi au Théâtre de Célestin, dans la petite salle en dessous. Quartet de Heiner Müller, mise en scène de Michel Raskin.
Il ne faut pas se tromper, il n'y a pas quatre acteurs, c'est seulement deux.
Voilà, deux qui d'ailleurs intervertissent leur rôle, et c'est magnifique, avec d'excellents acteurs qui s'appellent Marie-Ève Guittier. Et un jeune acteur effectivement excellent, Thomas Rortray. Alors ils intervertissent la Dame de Merteuil,
Cécile de Volanges.
Voilà, Marie-Ève joue aussi Valmont et vice versa. C'est un décor très très
intéressant. Il y a un clin d'œil à Beckett qu'on ne dira pas bien sûr, mais voilà. Michel Raskin a fait un clin d'œil à Beckett.
Alors le texte, je ne sais pas dans quelle mesure le texte de Laclos comment c'est réécrit à propos des lettres.
C'est un texte d'Heiner Müller. Hein.
Voilà, mais réécrit à propos des lettres. Mais bon, c'est magnifique. La langue est superbe. C'est très émouvant. Les acteurs sont excellents. C'est un grand moment.
Il faudra que nous attrapions éventuellement Jean-Claude Bolreda.
Il faut y aller absolument.
Samedi ou dimanche après la représentation, je crois qu'il ira. Bon, on lui demandera comment il aura trouvé ce quartet. Lui, en tout cas, il est encore.
Il y a encore de l'humour noir et de l'humour aussi. Et l'humour vraiment grinçant.
Samedi, je ne pourrais pas. Je pense qu'il serait très fâché, lui, si j'allais le samedi.
Ah non. Au boulot, Jean-Claude. On a besoin de toi.
On arrête les annonces?
Générique de fond, écoute, générique de fin. Générique
des expos, aller au musée des Beaux-Arts, voir la peinture lyonnaise avant que ça ferme bientôt.
Il y a plein de choses. Auditeur.
On en reparlera sur le blog.
C'était très bien. Vous pourrez réécouter cette émission, peut-être pas tout de suite, petit problème technique, mais on la récupérera, on la mettra en ligne. Dédicace à tous les Stéphanois, c'est ça en début d'émission.
Oui, MC Pampil, hein. On aurait pu finir avec la musique innovatrice Bruno Mélier, mais on n'a pas le temps.
On n'aura pas pu. Le plus des canuts maintenant, son bâtard, je ne crois pas aujourd'hui. La lumière dans le frigo est à 17h, c'est possible. Méga combi à 18h et canut info à 19h, voilà. C'est météo d'Evelyne Delia.
La semaine prochaine.
Semaine prochaine, je ne sais pas, mais la semaine prochaine, en tout cas, mercredi 27, vous pourrez encore le soir vous rendre. Ça, c'est génial. En attendant, Godot va être donné sur une durée, mais c'est, on parlait de temps et de rythme. Et ben, allez-y, retournez-y. J'ai entendu que des gens allaient voir plusieurs fois l'éveil de la force, Star Wars. Et ben, allez plutôt voir En attendant Godot plusieurs fois, parce que Jean-Claude Bolreda sur scène, c'est un estragon qui est au petit
oignon. Meilleur que Dark Vador.
Voilà, c'est ça. Encore un sacré gogo.
Et je peux vous dire une chose aussi, c'est, on l'a joué à Avignon, et on a une américaine qui est venue nous voir 4 fois. Et qui veut à tout prix jouer à Estragon.
Et qui voulait piquer le rôle de Jean-Claude.
Auditeur, bon après-midi. Merci Jean-Claude. Merci Laurent.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Merci. Au revoir tout le monde.
À bientôt.